Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Et Étienne Brack nous a rejoint sur ce plateau, chers amis. Bonsoir Étienne.
Bonsoir François.
Ravi de te retrouver. Étienne, journaliste à BFM Business. Et il y a cet accord donc entre G42 et Microsoft. Hein, c'est l'une des actualités, on va dire, saillantes du jour. Et une fois de plus, Microsoft rafle la mise avec OpenAI et ça se passe aux Émirats Arabes Unis.
Oui, c'est assez important. Hein, 1,5 milliard alors qu'il y avait déjà un investissement de quasiment 3 milliards ces derniers jours au Japon. C'est un investissement stratégique hein, puisque en échange de cet investissement de 1,5 milliard, eh bien vous avez Microsoft qui va rentrer au board de G42 et puis surtout qui va devenir un fournisseur essentiel de services. Hein, forcément, l'entreprise, le fonds, hein, puisque c'est un mélange des deux, va se fournir auprès de Microsoft pour ses solutions d'intelligence artificielle, mais pas que. Alors c'est une solution, une société plutôt qui est assez méconnue hein, médiatiquement. Ils font pas beaucoup parler d'eux, mais peut-être qu'avec ce partenariat, eh bien ils iront plus loin, notamment en termes de créativité et de nouvelles. D'autant plus que G42 et Microsoft vont créer un fonds de 1 milliard afin d'alimenter et de créer un vivier de développeurs. Donc forcément, c'est une bonne nouvelle pour Microsoft. Alors le groupe ne donne pas la répartition géographique de ses ventes, hein, mais c'est une zone où il y a une croissance importante. Et puis surtout, il ne s'en cache pas, avec G42, Microsoft espère ouvrir des portes en Asie, mais aussi en Afrique. Alors c'est quand même assez important, d'autant plus qu'en coulisses, vous avez la Maison Blanche qui a fait des tractations, qui a dit à G42 on veut bien, mais à condition que vous vendez vos participations en Chine. Donc en février ils ont vendu toutes leurs participations qu'ils avaient en Chine. Et puis surtout, c'est un accord qui aujourd'hui serait inimaginable avec un grand groupe chinois, ça c'est sûr, puisque forcément derrière tout cela, eh bien il y a l'accès aux technologies. Alors c'est un investissement important pour Microsoft, 1,5 milliard, mais quand vous regardez au final la trésorerie, c'est un groupe qui a entre 60 et 80 milliards de cash aujourd'hui.
Oui.
Bien planqué, enfin planqué dans le sens où c'est placé hein, en termes de liquidité. Donc 1,5 milliard, au final, ça reste une somme assez ordinaire hein, pour Microsoft. D'autant plus, comme je le disais, ça va aujourd'hui donner un carnet d'ordre assez important dans le sens où derrière, ce sont des clients potentiels.
Merci beaucoup Étienne Brack et toujours avec nous Christophe Olnet, Salim Hassan et Boris Mananti. Christophe, intéressant hein, cette prise de participation qui est minoritaire, hein, oui. Rappelons-le, oui, dans G42. Comment tu analyses en fait cet investissement?
C'était bien résumé par Étienne. Je pense que ça peut apparaître comme une victoire, un beau gain commercial pour Microsoft, mais c'est aussi plutôt derrière une prise de guerre, si je puis dire, géopolitique,
oui. De la part du gouvernement américain.
Voir, cette entreprise a été créée il y a 5 ans, G42, avec des fonds très importants qui visaient à faire des Émirats Arabes Unis une superpuissance dans le domaine de l'intelligence artificielle.
Donc c'est une boîte spécialisée dans l'IA, G42.
Oui, mais c'est un mix d'une boîte de conseil, des start-up, un fonds, il y a 22 000 personnes, beaucoup d'argent, et ils ont commencé à développer des choses assez intéressantes avec une vision et des data centers, une vision très souveraine. Et au début, Microsoft a regardé ça d'un peu loin en disant, bon, c'est encore un truc. Ils ont continué. Et en fait, ils ont donc développé avec Huawei, et depuis 3 ans, ça devenait un irritant pour Microsoft, même localement, parce que certains acteurs du secteur public allaient vers ces data centers.
Et donc c'était une boîte qui était adoubée aussi par la Chine.
Oui, Huawei. Il faut savoir que Peng Xiao, qui est le directeur général de G42, est l'ancien directeur général de Pegasus. C'est un Américain, visiblement d'origine chinoise, mais qui avait la nationalité américaine, qui l'a abandonné pour la nationalité des Émirats Arabes Unis. Donc, il y avait, de la part du département du commerce américain, donc ce personnage un peu sulfureux, ses liens très forts avec Huawei, il avait développé des liens très forts avec Huawei chez Pegasus, vous savez ce logiciel
espion. Ce fameux logiciel qui s'est retrouvé.
Voilà. Et donc, il y a un peu moins d'un an, il y a eu une réunion où le département de commerce américain a visiblement, de ce que Bloomberg explique, a visiblement mis les points sur les i en disant si vous continuez, vous ne désinvestissez pas en Chine, vous continuez, vous n'aurez pas accès aux puces Nvidia, par exemple. Ce genre de choses. Donc évidemment, c'était un gros danger. Et donc, ils ont entamé un processus de désinvestissement qu'ils ont annoncé en février. Et puis là, on a conclu un bel accord Microsoft, un peu à la bleue, c'est-à-dire qu'on va faire du souverain AI local. Bleu étant la Joint Venture Capgemini, Orange et Microsoft qui est en France, c'est un peu quelque chose comme ça. Mais donc ça, je pense que c'est très positif pour Microsoft. Je crois que le secteur public des Arabes Unis sont contents parce qu'ils vont pouvoir faire du Microsoft alors que ça les gênait. Mais derrière, c'est un win-back, si je puis dire, formidable pour le gouvernement américain dans une zone où finalement, un peu comme Singapour, Émirats Arabes Unis, c'est des pays qui essayent
qui sont au carrefour entre l'Occident et l'Asie.
Et donc là, ils ont complètement récupéré les choses. On voit Brad Smith, qui est la seule personnalité maintenant au board. Il n'y a pas de Chinois au board. Ils n'ont pas mis quelqu'un d'offre-produit. Ils ont mis quelqu'un vraiment spécialisé à faire public. Et je pense que ça va être un formidable poste d'observation aussi de ce que font les Chinois.
Boris, sur ce sujet.
Ah, moi, j'ai vraiment l'impression qu'on est en train d'assister à un jeu de risque qui est la bataille de l'IA qui commence. Et chacun place un peu ses pions et ses troupes. Et c'est effectivement une belle prise de guerre pour Microsoft dans la compétition mondiale que va être l'IA. Enfin, ça commence.
Oui, ça commence, c'est clair. Simplement. C'est clair.
Non, mais moi, je trouve qu'évidemment, c'est bien joué de la part de Microsoft. Il y a deux choses. Il y a une stratégie très offensive. Déjà, commercialement, effectivement, ils vont les équiper de tous les serveurs Microsoft, etc. Mais en dehors de ça, ça leur donne la main sur un actif qui peut être très stratégique. Parce que, enfin, de ce que je comprends, G42 a un asset qui est très intéressant. C'est qu'ils font ils sont très bons pour les LLM arabophones.
Absolument.
Donc, pour les LLM, l'équivalent de OpenAI, de GPT-4, etc.
Ouais.
Sur la langue arabe, alors je ne sais pas à quel point GPT-4 est performante en langue arabe, mais il se trouve que G42 visiblement est très performante, donc ça leur donne une supériorité sur un marché qui est quand même super stratégique.
Et quand on sait que les accointances entre OpenAI et Microsoft sont quand même assez fortes, ça, on voit l'intérêt.
Et d'un autre côté, une stratégie défensive qui est de dire on va essayer de limiter que la Chine mette la main sur des actifs stratégiques avec des partenariats effectivement avec Huawei et compagnie et potentiellement j'imagine des discussions actionnariales ou capitalistiques qu'ils auraient pu avoir dans le futur. Et je suis complètement d'accord avec toi, on voit qu'il y a une pour l'instant les États-Unis ont l'air d'avoir beaucoup d'avance. Si on regarde tous les champions mondiaux de l'IA aujourd'hui, les grandes boîtes américaines ou les grands fonds américains sont tous actionnaires minoritaires ou majoritaires. Tous les Claude, Anthropic avec Amazon, OpenAI avec Microsoft, Gemini, Google, Llama, Facebook, même Mistral AI qui est censé être le champion français, Andreessen Horowitz au capital. À chaque fois qu'ils voient émerger un champion dans n'importe quelle région,
ils investissent.
On investit, on essaye de prendre des parts parce que on ne sait pas quel sera le grand vainqueur à la fin, mais ils maximisent leur probabilité de détenir les 2-3 champions qui vont émerger.
C'est sûr que si on avait un doute sur le fait que la Big Tech soit au service du gouvernement américain et réciproquement,
on n'a plus de doute.
Non, ça c'est clair.
Parce qu'on peut imaginer qu'en sous-main, dans cette transaction, il y a la Maison Blanche.
Oui, ça paraît assez évident là, oui, de ce qu'on lit. Bon, ouais, et puis,
En tout cas, de ce qui transparaît dans la presse, c'est personne n'a l'air de s'en cacher.
Mm-hmm.
Non, et même
Peng Xiaoli. C'est les Chinois qui doivent tirer la gueule.
Le DG de G42 a dit oui, bon, de toute façon, il faut être pragmatique. Si on veut pouvoir avoir accès et pouvoir offrir la plus large palette
de
technologies au monde, il y a des choses qu'il faut qu'on désinvestisse en Chine pour pouvoir avoir accès aux technologies occidentales. Voilà, donc il l'a quasiment dit comme ça.
Ouais, intéressant. Bon, dans l'actualité, autre sujet, puisque on se rapproche petit à petit de l'Asie, si on s'intéresse à TikTok, l'actualité TikTok, elle est quasiment quotidienne, hein. C'est vrai que les jours sont compliqués pour le patron de TikTok, qui se retrouve tiraillé et bien évidemment toujours pointé du doigt par à peu près tous les pays occidentaux, hein. On va pas vous refaire l'histoire. La dernière histoire en date, elle est très récente. Ce sont d'anciens salariés de TikTok qui auraient, on va dire, raconté que, il y a toujours des connexions entre TikTok et ByteDance, qui est la maison mère de TikTok, ce qui a toujours démenti TikTok et ByteDance en disant la version occidentale, elle est déconnectée en fait de la Chine. Vous pouvez nous faire confiance, etc., etc. On n'a rien à voir avec ça et on n'a pas accès aux données. Il se trouve que d'anciens employés plutôt placé d'ailleurs chez TikTok, aurait prouvé le contraire. Et là, évidemment, ça arrange pas les affaires de TikTok, Christophe.
Non, en fait, qu'il y ait des liens entre TikTok et ByteDance historiquement, personne n'en doute.
Logique.
Elle fait très mal cette attaque parce que, qu'est-ce qu'elle dit ? C'est un data scientist qui dit, tous les 15 jours, j'envoyais un fichier Excel ou autre avec des millions
une clé USB
de j'envoyais avec des millions de comptes, adresse IP, nom d'utilisateur, démographie, etc. J'envoyais ça en Chine, on me demandait de le faire.
J'espère que c'était pas la clé USB qu'ils ont perdue dans le RER avec les plans des JO.
Ça, ils le faisaient.
C'était une autre.
Ils le faisaient avant. Mais faut savoir qu'en mars 2022, enfin à un moment donné, il y a eu un accord. Ils ont dit bon, finalement, on entend bien vos préoccupations.
On arrête d'envoyer les données.
On arrête. On fait un mur de Chine, si je puis dire.
Bien sûr.
Pas la bonne expression, mais.
Mais elle est
un mur étanche.
Évocatrice.
Entre TikTok, États-Unis et ByteDance. Et là où l'attaque fait mal, c'est qu'il accuse le management de complicité et de duplicité. Et aux États-Unis, on peut faire des conneries, mais mentir. Ça, c'est pas accepté. Et donc, je pense que c'est même presque plutôt un cadeau empoisonné pour Biden, parce qu'il va se retrouver avec des preuves quasi objectives qu'ils ont menti, puisqu'il dit aussi que on lui a dit post-accord, bon, ton nouveau manager, il est à Seattle là, mais en fait, dans la réalité, tu continues à reporter à la personne à Pékin et tu continues à les envoyer. Donc, ça veut dire que, ils se sont moqués de cette, ils n'ont pas tenu parole, ils se sont moqués de cet accord-là. Et si ça s'est avéré vrai, il va falloir prendre des mesures. Et le coût COUT politique à 6 mois d'une élection de dire je bannis TikTok, c'est pas une décision facile.
Oui, Boris, tout ça dans un contexte où, il y a des sénateurs aux États-Unis qui veulent l'arrêt de TikTok, en fait. Oui. Ils veulent que TikTok sorte, en fait, du continent américain. Oui. Qu'on ne puisse plus télécharger TikTok sur les stores.
Le bannir.
Mais ça commence à être assez, j'ai l'impression, en tout cas, partagé, côté démocrate comme républicain, qui a un vrai problème TikTok. Ils l'ont déjà interdit à tous leurs fonctionnaires. Ça pourrait être l'étape d'après de se dire qu'on bannit parce qu'ils ne respectent, TikTok ne respecte pas la loi. C'est valable aux États-Unis, c'est valable en France, c'est valable dans plein d'autres pays. Et en vrai, ces révélations, elles sont choquantes, mais c'est pas une vraie surprise. C'est pas la première fois qu'on apprend qu'ils récupèrent des données. On savait déjà, par exemple, que la direction chinoise avait utilisé TikTok pour espionner une journaliste américaine qui enquêtait sur TikTok. L'espionner, ça veut dire trouver sa localisation, voir avec qui elle parle, trouver les messages. On va assez loin quand même dans les mesures. Et les liens entre ByteDance et TikTok, qui est censé être une multinationale, sont hyper étroits et ça ne va pas s'arrêter demain. A priori, le code informatique est le même que Douyin, la version chinoise. Une grande partie est en mandarin et reste traité à Pékin.
Oui.
Ouais. Non, je pense que c'est une surprise pour absolument personne qu'ils continuent à avoir de la communication entre TikTok et Biden. Je serais surpris qu'il y ait des gens qui soient surpris par cette nouvelle.
À l'ère de
quand il y a l'annonce et qu'il y a des choses plus concrètes, évidemment, ça donne encore plus de travail aux politiciens parce que ils ont le nez dessus, ils doivent agir. Mais voilà, si les politiques américains sont pas à l'aise avec ça, évidemment qu'ils le sont pas, mais ils doivent tout simplement agir et interdire TikTok ou les faire passer avec un actionnaire américain. Mon sentiment, c'est que la raison pour laquelle c'est compliqué, c'est qu'il y a toute une économie de créateurs autour, toute une panoplie de business qui compte sur TikTok pour vivre de la même manière que sur d'autres plateformes, et que c'est compliqué. Mais je pense que tant que TikTok, avec son lien capitalistique avec ByteDance, existera, je ne vois pas comment ce sera possible que la Chine ne continue pas d'espionner.
D'où la volonté des États-Unis de désolidariser TikTok US, ça serait l'une des options possibles. Il faudrait qu'un géant de la tech américain ou un géant tout court.
À l'époque, Trump avait demandé à Oracle de le faire.
Tout à fait.
On se souvient.
Et puis finalement, c'était tombé à l'eau. Après, Trump a été remplacé par Biden.
En période d'élection. On peut faire confiance aux politiques pour pas prendre des décisions rationnelles, mais les faire uniquement en posture politique. Donc, si jamais Biden dit on va bannir TikTok, on peut être à peu près sûr que Trump, ayant revendiqué la même chose, volera au secours des PME-PMI qui font du business avec TikTok ou des ados qui ont le plaisir à l'utiliser pour dire qu'il ne faut pas le bannir.
Après, je trouve qu'on parle beaucoup des États-Unis. On entend très très peu les politiques françaises s'en parler de ce sujet-là. On a une commission sénatoriale qui a enquêté dessus, qui a dit qu'il faudrait bannir TikTok tant qu'il ne respecte pas la loi, puisque TikTok, en France, ne respecte pas la loi de protection des données. Mmh. C'est avéré. Il y a des données qui sont transférées vers des serveurs chinois, ce qui est illégal. Comment ça se fait qu'il n'y a aucune sanction ?
Mmh, c'est
clair. Là, on a le président chinois qui va venir début mai. rencontrer Emmanuel Macron, ça serait une formidable occasion
de lui poser
le sujet soit évoqué.
Ouais, c'est clair. Bon. Après, comme il va acheter sans doute quelques centaines d'Airbus,
c'est peut-être pas la priorité. C'est vrai.
Quelques EPR, c'est peut-être pas le moment
au-delà de le chauffer avec ça. De la vie privée, je pense que l'autre chose, tu es un spécialiste du sujet, tu as écrit un livre là-dessus, c'est l'impact que ça a sur l'abrutissement généralisé de générations dont on considérera probablement dans 50 ans qu'elles ont été des générations sacrifiées. Est-ce qu'il va falloir faire quelque chose?
En tout cas,
c'est pas que TikTok. Ouais.
Non, absolument.
Non, mais la question du temps
TikTok,
passé.
On est un emblème. Ouais,
ce qu'ils viennent quand même de lancer, ce fameux TikTok Lite, où on est rémunéré, certes en bon d'achat, mais on est rémunéré pour le temps passé sur l'application.
Ouais, ça c'est chaud quand même. Hein. C'est-à-dire que vous téléchargez une application autre que TikTok, et plus vous restez de temps, enfin je schématise et voilà, je grossis un peu le trait, et vous gagnez de l'argent en regardant des vidéos, quoi. C'est quand même assez impressionnant. Mais alors, je veux pas prendre la défense de TikTok ici, parce qu'on est tous plus ou moins d'accord sur tout ça, mais TikTok est un peu montré comme le vilain petit canard, mais tous les réseaux sociaux américains font pareil en fait. Les Instagram, les Facebook récoltent des données, les envoient aux États-Unis. Et là, on dit rien, finalement.
Mais il y a un point de différence crucial qu'il ne faut jamais perdre de vue. Les États-Unis sont un allié géopolitique de la France. Mmh. La Chine ne l'est pas.
Mmh. Oui.
Le Parti communiste chinois est au sein de ByteDance, a des sièges, a des actions chez ByteDance. Ils ont des représentants très officiels, comme les grandes entreprises chinoises, chez ByteDance.
Oui, d'accord. Mais enfin, bon, la Chine aujourd'hui n'est pas un ennemi, si tu veux.
Mais ce n'est pas un allié.
C'est
une différence assez fondamentale en géopolitique.
Non, mais tu as raison. Mais on peut imaginer aussi que demain, les relations se tendent entre la France, l'Europe et les États-Unis. Hein. Enfin, on vit un monde où tout est possible. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on montre du doigt TikTok. Beaucoup moins, enfin, personne ne parle de Facebook, qui est un aspirateur donné. Je ne sais pas si vous vous souvenez du nouveau réseau qui s'appelle Threads, qui lui, alors, aspire tout ce qu'il y a sur votre téléphone. D'ailleurs, il est arrivé un peu en retard en France sur ce sujet-là. Enfin, je ne parle pas d'Instagram, je ne parle pas de Twitter aussi, quoi. Salim.
Ouais. Non, franchement, quand tu as commencé à parler du sujet, j'ai pensé à, je me suis posé la même question. Je pense que si la Chine avait eu un équivalent du Cloud Act, tout le monde aurait crié au scandale absolu, etc. Alors que les Américains le font limite ouvertement en disant qu'ils peuvent exploiter les données sous certaines conditions. Ça paraît assez improbable que dans certains cas, ils ne le fassent pas. Et donc, j'ai du mal à penser que les Américains ne le fassent pas aussi. Alors peut-être que c'est une position assez forte, mais évidemment, quand on voit toutes les données qui sont traitées par les serveurs AWS, etc., qui peuvent être extrêmement stratégiques, il y a des raisons de penser que sur certaines conditions, ils utilisent aussi certaines de ces données-là, pourquoi pas.
Ouais.
Mais le fait que ce soit la Chine, pas l'allié effectivement des pays occidentaux, fait que ça fait plus de bruit. Mais je pense que les autres plateformes devraient avoir le même problème.
Et pour revenir à TikTok, imaginez le courage politique qu'il faut pour enlever le TikTok de la main de millions et de millions de jeunes adultes.
Certains pays l'ont fait. Alors, c'est pas le meilleur modèle qu'est l'Inde, mais puisque c'est un pays assez autoritaire, ils l'ont fait.
Ouais, ils l'ont fait. Ouais. Mais est-ce que tu penses que ça serait possible ici, aujourd'hui ?
En Inde, quand ça s'est fait, immédiatement, il y a eu des applis qui copiaient-collaient.
D'accord,
c'est vrai qu'ils sont. Et donc, sur les usages, l'usage s'est retrouvé d'une autre manière.
Ouais, c'est clair. Il nous reste 4 minutes. J'aimerais qu'on revienne sur le livre de Boris, hein, Elon Musk, Le Bonimenteur, qui sort le 2 mai prochain, donc aux éditions Rocher. Combien de temps faut-il pour écrire un bouquin comme ça, aussi détaillé sur Elon Musk ?
C'est une vaste question. Je dirais que j'ai mis un an et demi.
Un an et demi quand même.
Juste comme ça.
D'accord.
J'ai eu une naissance entre-temps. Un peu interrompu un moment.
Mais ça va, donc tu avais des nuits blanches. Tu pouvais écrire. On parlait tout à l'heure des relations que peuvent entretenir toutes ces boîtes avec les États, et notamment Microsoft avec la Maison Blanche, hein, puisqu'on voit que tout ça a été mené de concert. Quelle relation a Elon Musk justement avec les gouvernants ? Il est plutôt opportuniste. Comment ça se passe ?
Disons que depuis SpaceX...
Parce qu'il n'est pas ouvertement contre Biden.
Non. Il n'est pas ouvertement pour non plus.
Ouais. Oui, mais bon.
Et il appuie bien sur la politique des migrants, qui est tout le discours des républicains en ce moment. Mais depuis SpaceX, c'est devenu un homme politique, en fait, puisque tous les contrats de SpaceX sont des contrats publics.
Et oui.
Il passe son temps à négocier des très gros contrats.
Mmh.
Notamment la NASA. Donc c'est très très important, les relations politiques pour lui. J'ai l'impression, et c'est ce qu'on lit un peu des bruits, il y a eu quelques grandes enquêtes du Wall Street Journal en début d'année sur ses consommations de drogue.
Oui.
Ah.
En tant que patron, mais aussi comment il influence son board pour les inciter à consommer des drogues.
On se souvient de ce podcast hein, où il fumait.
Voilà.
Mais là, on parle de... t'as aussi le microdosing. Hein,
oui, oui. Mais là, une vraie l'article, tendance. En tout cas, moi, ça, je ne sais pas, mais l'article parlait de drogues beaucoup plus dures. Ouais. Les directions de la NASA sont pas très fans.
Ah.
Ça grince un peu que
le CEO d'une boîte qui va fournir, je sais pas moi, des fusées à la NASA ne peut pas être irréprochable en fait. C'est
en
ça.
En tout cas, ouvertement, faire savoir qu'il consomme des stupéfiants.
Tu parlais de microdosing, c'est vrai que ça c'est une rumeur.
Je vous avais envoyé un article là-dessus, dans la Silicon Valley, qui commence à dire, moi finalement, pour être plus performant,
que c'est bénéfique.
Et c'est pas le seul,
des microdoses de différentes.
Quoi, des amphétamines, des choses comme ça.
Amphétamines, différents stupéfiants, différents dérivés. Et ce microdosing, et des dirigeants de boîtes tech encouragent leurs collaborateurs à le faire pour augmenter leur performance. Donc c'est une vraie tendance dans la Silicon Valley.
Je crois qu'il y a un documentaire sur Netflix là-dessus. Ouais.
Sur le microdosing. Alors Salim, tu es un adepte depuis quelques années. Comment se passe le microdosing?
J'apprends ce soir que ça existe.
Non, mais sincèrement, c'est étonnant. Et alors tu parlais de la NASA, mais quand on voit Neuralink aussi, qui est une boîte qui en plus avance avec des succès incroyables là. Hein. Oui. Alors il y a eu pas mal de casses, mais c'est vrai que
il y a eu pas mal de casses.
Mais rappelons que il y a une personne qui est tétraplégique qui arrive grâce à la pensée à pouvoir jouer à des jeux vidéo, à manipuler un ordinateur et tout. C'est quand même incroyable cette aventure là.
Ah, ça se développe très vite, mais du coup l'image qui est renvoyée va être importante puisque là on parle quand même de santé publique. Il faut être assez irréprochable. Si à côté de ça, le même patron
fait du microdosing.
C'est là où je trouve que la puissance d'Elon Musk. Enfin, Elon Musk a une autorisation de la FDA de pouvoir transplanter justement cette puce dans un être humain. Je pense que si ça n'avait pas été lui, et si ça n'avait pas été les États-Unis, ça aurait été compliqué de le faire.
Oui, c'est
ça. Bravo à son personnage et bravo aux États-Unis d'avoir. Je dirais cette philosophie entrepreneuriale de preneur de risque pour faire avancer la science. Oui. Je pense qu'en Europe, on aurait mis 15 ans avant d'avoir une autorisation et 15 ans plus à faire le premier test.
Alors qu'on a le CEA qui travaille sur un concept de puce, alors un petit peu différente, mais en tous les cas, qui a pour but de faire remarcher les gens qui sont paralysés. J'avais interviewé cette start-up qui est incroyable, mais c'est vrai qu'ils ont du mal justement à avancer, sans mauvais jeu de mots, parce que il faut toutes les autorisations, etc., etc. Et la lourdeur administrative française fait que ça prend des dizaines d'années. Quoi.
Après, tu dis bravo, à côté de ça, peut-être que c'est plus lourd. Pour autant, lui, ça a été peut-être un peu trop vite, puisqu'on a appris quand même qu'il y a pas mal d'animaux qui sont passés sur le billard et qui ont été un peu sacrifiés comme ça,
c'est clair.
Juste pour accélérer et pour aller vite.
C'est sûr.
Sans aucune précaution.
Bon, bah écoutez, si vous voulez en savoir plus sur Elon Musk, la face cachée, la face sombre d'Elon Musk, rendez-vous le 2 mai. Hein, voilà.
Exactement.
C'est le 2 mai que sortira ce bouquin qu'on vous fait découvrir donc en avant-première ce soir dans Tech & Co. Boris Monanti, son auteur, était avec nous sur ce plateau. C'est paru aux éditions du Rocher. Merci Boris.
Merci à toi.
Et tu reviens quand tu veux pour débriefer l'actu, qu'elle soit d'Elon Musk ou autre. Voilà. Et merci beaucoup à Christophe Holnet.
Merci.
Rappelons-le, senior advisor chez Seven2, ancien président de Microsoft Asie du Sud et France. Et Salim Assad.
Merci.
À bientôt, Salim, associé chez Newfound.